Radio Campus 106,6 FM, émission Quoi de Neuf, qui va fêter aussi la science à partir d'aujourd'hui jusqu'à pendant 3 semaines, on va dire, puisque 3 émissions seront consacrées à cette fête qui est bien sûr aussi présente en région de France avec les universités sur un thème océan de savoir pour cette 33e fête de la science du 4 au 14 octobre. Traiter de ce sujet d'aujourd'hui, sachant qu'il y aura également 2 autres émissions la semaine prochaine et la semaine d'après à la même heure, eh bien nous avons invité un certain nombre de personnes qui œuvrent à la préparation de cette fête, pour qu'elle soit bien sûr une réussite comme les années précédentes. Alors, par ordre d'apparition sur mon document, eh bien, je vais proposer à Océane Devinck de se présenter. Bonjour Océane.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc chargée de communication, médiation scientifique pour l'Université de Lille, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Au sein des Sciences Infuses, le programme de médiation scientifique de la Direction Valorisation de la Recherche.
Alors, Sciences Infuses, c'est en général ou c'est seulement pour la fête de la science?
C'est en général, on a un programme qui fonctionne toute l'année.
Voilà, on fait un petit tour et on reviendra bien sûr à vous pour entrer dans les détails. Océane Devinck, donc merci, à tout de suite. Et Christelle Auduit, donc de l'Université de Recherche TVES, chercheuse, bonjour.
Bonjour.
Donc une chercheuse, c'est important pour cette émission parce qu'on va parler bien sûr de recherche. Hein. Vous ne serez pas la seule puisqu'on a aussi... L'Institut Chevreul qui est représenté par notre ami Maxime Traîneau. Bonjour Maxime.
Bonjour à tous.
Alors Maxime, on se connaît puisque tu as réalisé plusieurs émissions spécifiques sur et avec l'Institut Chevreul. On peut peut-être repréciser le cadre.
Oui, tout à fait. Alors en fait, à l'Institut Chevreul, on est un institut de chimie des matériaux où on fédère plusieurs laboratoires de l'Université de Lille autour de cette thématique. Et on a un programme aussi, nous, de médiation scientifique en interne où on a notamment réalisé effectivement l'émission La Maté Radio qui donnait la parole aux doctorants et aux doctorantes de l'Institut.
Voilà, donc Maxime, on te retrouvera bien sûr... Après, pour présenter aussi peut-être le laboratoire Humette. Et puis Sylvain Laforêt, donc de l'unité matériaux et transformation CNRS, l'Université de Lille. Bonjour.
Bonjour.
On va dire que vous êtes le héros de cette histoire.
Oui, c'est un très grand mot, j'oserais pas dire ça. On a beaucoup de choses à discuter, je pense, oui.
Donc en fait, vous êtes l'ambassadeur de cette édition.
Oui.
C'est la première fois?
Oui, c'est tout à fait la première fois. Je suis doctorant moi, au sein de l'Humette et pour la petite histoire, je travaille sur des échantillons d'astéroïdes. Et ces échantillons d'astéroïdes, ils recèlent quelque chose de très important, ils contiennent beaucoup d'eau et ça ouvre des portes importantes pour la compréhension de l'apparition des océans sur Terre. Donc ce sujet touchait de près à la fête de la science de cette année et donc voilà, c'est l'occasion d'en parler de vive voix.
Alors c'est vrai que à la radio parler des astéroïdes, bon on peut toujours, hein, ça plane pour moi, etc. Mais avec la bande dessinée, c'est peut-être plus facile d'écrire cet univers.
Oui, exactement. En fait, voilà, tous les ans, il y a une bande dessinée qui est éditée dans le cadre de la fête de la science. Et le but est de raconter le quotidien de 7 doctorants à travers la France qui mènent leurs recherches sur la thématique de la fête de la science. Et donc, voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour être représenté dans l'édition de cette année-là. Et c'est l'occasion de mettre en image ce sujet intéressant pour attirer l'attention des plus jeunes qui vont pourquoi pas se lancer dans la science plus tard.
Alors c'est vrai que la bande dessinée, les bulles, etc., c'est une façon assez facile, enfin quoique, de communiquer à plusieurs niveaux selon les âges. On peut aller plus ou moins profondément, d'avoir une première image déjà qui interpelle, qui intéresse, et après on peut développer.
Tout à fait. Et c'est là le travail important qui a été fait avec Héloïse Chauchois, qui est l'illustratrice de cette édition. Et donc ça a été vraiment de choisir quoi mettre en image, quoi mettre sous forme de texte, pour que ce soit équilibré et intelligible pour le plus grand nombre.
Et ça, on pourra le voir physiquement sous forme d'une vraie bande dessinée
tout
ou ce
fait.
Sera un lien Internet où on aura les mêmes plans
Alors, je ne sais pas si c'est accessible sur Internet. Je pense que oui, mais c'est aussi édité et disponible dans toutes les librairies qui sont partenaires du Syndicat National de l'Édition.
Mmh. Il y aura peut-être de grandes planches qui seront présentées dans le cadre
et
de
Et probablement. Alors voilà, dans le cadre
ouais.
de la Fête de la Science, il y a des stands qui seront prévus pour cela et qui présenteront la bande dessinée en grand format. Mais elle est aussi accessible et elle est... si je ne dis pas de bêtises, distribuée gratuitement dans ces librairies-là.
Quel thème elle a de façon assez précise ?
La bande dessinée ?
Oui.
Alors la bande dessinée, elle va traiter un sujet qui correspond à chaque doctorant. Donc il y a 7 sujets qui sont abordés. Ça va de la gestion de l'eau dans des zones à risque, par exemple. Pourquoi utiliser de l'eau pour faire de la neige artificielle ? Quels sont les conflits que ça peut générer ? Il y a un sujet qui traite aussi des mangroves, quelles sont les interactions entre la végétation et les océans. Et mon sujet fait partie de ça. Donc ça couvre beaucoup de thématiques. Ça vient des sciences sociales à l'histoire et donc après à la chimie, comme moi je peux le faire.
Alors, j'imagine que certains thèmes se prêtent plus facilement que d'autres à la bande dessinée, à la bulle.
Oui, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un peu plus porteurs. L'espace marche bien, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi, c'est là où le challenge est grand pour des sujets qui paraissent plus complexes au premier abord. De les rendre visuels, de les rendre attractifs, c'est un vrai challenge et c'est agréable quand ça marche. Et je crois que c'est le cas de cette bande dessinée là de cette année-là. Elle est très chouette à lire. Donc je vous invite tous à la parcourir.
Voilà, donc ambassadeur de cette édition 2024 de la Fête de la Science, c'est une lourde responsabilité.
Bon, oui, on peut dire ça, c'est un plaisir surtout.
Voilà, ça vous mobilise depuis combien de temps déjà ?
Depuis quelques temps, c'est vrai que pour Science en Bulle, les candidatures ont été faites il y a un an à peu près. Donc depuis un an, on travaille sur ce projet-là qui aboutit enfin. Et donc cette occasion, il y a aussi diverses rencontres qui sont réalisées à travers les Hauts-de-France, dans des médiathèques et des centres culturels. Pour rencontrer les gens, échanger sur ces sujets et sur cette fête de la science.
Pour Science en Bulle, c'est une première ?
Alors pour moi, c'est une première. Je sais que l'Université de Lille a déjà eu des étudiants, des doctorants qui étaient illustrés dans le cadre de Science en Bulle. Donc ce n'est pas une première pour les sciences infuses qui chapeautent tout ça, mais pour moi, en tout cas, oui, c'est une première. Et ce sera probablement l'unique fois.
Au sein de on a bien compris que l'université... utiliser d'une certaine manière ou profiter de cette occasion de fête de la science pour communiquer sur ce qu'elle réalise, notamment dans ses laboratoires, et aussi d'attirer une population d'étudiants qui ne pensent pas forcément à la science, alors que c'est quand même l'avenir.
Oui, c'est ça. Et il n'y a pas forcément que les étudiants, on touche aussi les publics scolaires, familiales, c'est vraiment un public qui est... divers et variés. On a différents types de médiation pour toucher ces publics. On a des ateliers, on a des conférences, des expositions. On n'est pas forcément sur un type précis de médiation pour faire profiter la fête de la science à tout le monde.
Pour vous, Université de Lille, c'est un moment important d'échange avec le public ?
Oui, c'est vraiment la grosse manifestation qui permet... aux chercheurs et aux chercheuses de l'université de rencontrer leur public, de sortir de leur zone de confort, de leur laboratoire, pour vraiment faire profiter aussi leur sujet de recherche à ces publics. Et ils n'ont pas forcément l'occasion, en dehors de leurs travaux, de pouvoir aller toucher ces publics.
Alors, j'ai pu déjà visiter certains de ces laboratoires durant la fête de la science. Est-ce qu'il y a une alternance, est-ce qu'il y a des différences d'une année à l'autre sur les laboratoires qui se proposent à être ouverts au public ?
Oui, ça dépend de la thématique aussi. Par exemple, on a eu réveil climatique et sport les deux dernières années. Ce n'est pas forcément les mêmes laboratoires qui vont se présenter et se manifester comparé à là avec la thématique de l'eau. C'est vrai que d'une année à l'autre, on retrouve des personnes qui essayent de s'intégrer quand même... qui essayent de trouver des billets pour s'intégrer à la fête de la science, mais on a aussi des nouvelles personnes, de nouveaux laboratoires d'une année à l'autre qui se manifestent pour participer.
Alors, j'imagine que l'eau, c'est un thème important. C'est quand même actuellement, il y a de vrais enjeux autour de l'eau au niveau international. J'imagine que vous avez sans doute des questions que vous posez à la science, mais aussi qu'on vous pose en tant que chercheur.
Oui, mais il y a plusieurs biais qui sont utilisés pour aborder l'eau pour les laboratoires. On a l'aspect santé, on a l'aspect écologique. C'est vraiment différents aspects qui sont abordés. C'est ça qui fait aussi la richesse de la programmation pour la Fête de la Science.
Alors Christelle Audouy, en tant que chercheuse, qu'est-ce que vous apportez à ce parcours scientifique des sciences infuses que vous allez présenter ? En quoi votre qualité de chercheuse vous permet d'avoir une idée très précise de comment présenter les choses dans un atelier ?
Alors, je suis ingénieure de recherche, je suis en appui en fait à la recherche. Comme je suis ingénieure de recherche, je travaille avec plusieurs collègues dans différents projets. Ce qui me permet de voir un peu ce qui se passe sur la thématique, sur le littoral. On s'est rendu compte avec quelques collègues qu'il y avait peu de connaissances sur le métier en fait de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales. Le grand public ne sait pas ce que font en fait les chercheurs en sciences humaines et sociales. Il nous tenait fort à cœur. On a monté un collectif et on a vraiment été motivés de transmettre quel était notre métier. Et à partir en fait d'exemples très concrets de projets, on s'appuyait sur certains projets qu'on a menés avec notamment l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et de montrer les différentes étapes, quelle était la recherche en fait, de la commande au montage d'équipe, qui on choisit dans l'équipe, est-ce qu'on choisit un économiste, un écologue, faire du pluridisciplinaire et pourquoi on fait du pluridisciplinaire, réfléchir en fait aux hypothèses qu'on va chercher à valider ou invalider, toute cette partie questionnement hypothèse, et ensuite effectivement expliquer les traitements possibles et les résultats qui en découlent au questionnement. Donc vraiment c'est quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, et c'est ce qu'on veut amener sur ce parcours, c'est de montrer un peu le métier de la recherche en sciences humaines et sociales, entre autres.
Alors un océan de problèmes et forcément en face, en perspective, un océan de savoir actuel, mais aussi à préparer.
Tout à fait. En fait, on s'appuie sur plusieurs thématiques et on montre les différents enjeux qu'il peut y avoir sur le littoral, notamment submersion marine, réseaux côtières. Mais il y a aussi, par exemple, il y a la thématique du mouillage sauvage sur les herbiers de Zoster, c'est-à-dire en fait la thématique des activités récréatives qui sont, entre guillemets, pas gérées. Et qu'est-ce que ça impacte sur le milieu ? Voilà, ce genre de choses. Et aussi on aborde aussi la question de la représentation, en fait. Nous avons tous des représentations différentes, entre autres du littoral, ou des activités qu'on mène sur le littoral, et on aborde ces questions-là.
Est-ce que le littoral ouest, on va dire l'océan, est très différent du littoral nord, Manche et Mer du Nord, en termes de problématiques, notamment par cet espace qui permet aussi de relier l'Europe du Nord, on va dire, avec tous ces bateaux qui passent, voire ces migrants qui traversent.
Alors, moi, je vais avoir une entrée très active. Je n'ai pas précisé, effectivement, je suis littoraliste, mais avec une entrée très activité récréative sur le littoral. J'ai eu, à un moment donné, dans ma carrière, j'ai touché un peu à toutes les questions qui étaient submersion, enfin géomorphologie du littoral, mais il y a très très longtemps. Là-dessus, sur tout ce qui est submersion et érosion, on a la même problématique, en fait, que ce soit sur l'océan ou sur la partie nord de notre littoral, et même sur la partie méditerranéenne. Maintenant, sur les activités récréatives, j'ai envie de dire, on va avoir des pratiques qui vont être différentes, mais les activités vont être les mêmes, en fait. Alors, avec des flux différents, etc. Mais c'est surtout les modes de gestion qui vont être différents d'un territoire à un autre. Parce qu'on n'y met pas forcément les mêmes moyens, en termes humains ou financiers. Ça peut être Voilà, c'est surtout en termes de gestion, en fait, et de protection qui vont être différents.
Alors, bien sûr, dans notre région de France, il y a l'Université du Littoral, il y a aussi Amiens, la Picardie, et il y a bien sûr l'Université de Lille. Est-ce que tout le monde est en phase pour aborder ce problème des mers et des océans ?
Alors, nous sommes un laboratoire avec deux tutelles, l'ULCO et ULIL. Nous avons des membres de notre laboratoire qui sont en fait à Dunkerque et à Boulogne, et d'ailleurs qui vont animer la mallette pédagogique qu'on a construite au sein du collectif, aussi bien à Nausicaa qu'ici sur l'île. Donc oui, effectivement, les thématiques, on travaille ensemble beaucoup.
Alors, ce que je vous propose, c'est de laisser le micro ouvert pour vous qui êtes autour de cette table pour exprimer à la fois vos idées. Peut-être Maxime pourrait revenir sur justement la spécificité de son lieu de recherche et puis ce qu'il apporte aussi à cette fête.
Oui, bien sûr. C'est vrai que nous, en tant qu'institut, on vient appuyer différents laboratoires et c'est vrai que la thématique océan de savoir, au premier abord, c'était un peu compliqué sur la chimie des matériaux puisqu'il n'y a pas forcément de lien direct, on va dire. Mais on s'est dit que finalement, les matériaux, il y en a tout autour de nous. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça peut toucher l'eau. Et en fait, avec certains scientifiques, donc de l'UMET notamment, on s'est dit qu'on allait travailler autour de la bouteille d'eau, qui est un objet du quotidien qui est présent absolument partout, mais qui pose aujourd'hui de très très gros problèmes scientifiques, notamment sur la question du recyclage, du plastique, mais aussi sur la question des métaux, puisqu'il y a des bouteilles en métal, ou tout simplement de bouteilles en plastique biodégradable ou fait à partir de composants biologiques. Et en fait, voilà, on avait plusieurs scientifiques qui travaillaient sur ces différentes thématiques et on a réussi à trouver ce thème commun qu'on a ensuite proposé aux Sciences Infuses, justement, pour participer au parcours scientifique. Donc, on est sur une approche moins, on va dire, dans le thème, mais on arrive toujours un peu à raccrocher les wagons. Et c'est ça aussi qui est intéressant en médiation scientifique, c'est de trouver comme ça des manières un peu différentes, un peu originales, de parler de science tout en se rattachant au quotidien des gens.
Alors c'est vrai qu'il y a peu de temps, j'utilisais encore des bouteilles d'eau que je remplissais régulièrement et on m'a dit, attention, c'est marqué PET 1, 2, 3, et ça, c'est... faut faire très attention, c'est vrai.
Et aujourd'hui, alors moi je pourrais peut-être pas parler en détail de quels sont les plastiques dangereux ou pas, mais en tout cas nous à l'Institut, certains scientifiques travaillent effectivement sur soit développer des plastiques faits à partir de matériaux moins dangereux pour l'environnement, soit de trouver des nouvelles méthodes de recyclage justement pour que ces matériaux-là qu'on a, qui sont partout présents autour de nous, qu'on puisse les traiter et en faire autre chose. Et pas simplement qu'ils partent dans la nature et qu'ils polluent absolument partout.
C'est vrai que les communes sont aussi soucieuses de préserver leur environnement et que l'aspect traitement de ces déchets plastiques, c'est pour eux une lourde charge.
C'est ça, tout à fait. On a pas mal de scientifiques et d'ingénieurs aussi dans les laboratoires qui travaillent avec les collectivités ou avec différentes entreprises justement pour répondre à ces problématiques qui peuvent, que ces entreprises ou que ces collectivités peuvent rencontrer. Et donc, il y a vraiment ce lien, on va dire, science-société qui est très présent, en fait, dans la recherche. Les chercheurs ne travaillent pas tout seuls dans leur laboratoire. Ils sont souvent, en tout cas en chimie des matériaux, ils sont souvent en contact de vraies problématiques du quotidien, on va dire.
Alors, c'est vrai qu'on a tendance à voir de plus en plus l'océan ou les océans, les mers, etc., qui se transforment en poubelles avec des plastiques de nature diverse et de durabilité diverse qui se déverse au quotidien, dont on ne sait trop que faire, et dont certains poissons, certains animaux aquatiques souffrent beaucoup.
C'est ça. Et il y a aussi, il y aura une activité d'ailleurs autour de la pollution du plastique dans l'eau durant le parcours scientifique aussi, qui est portée par un autre laboratoire aussi de l'Institut, qui est le LASIR, qui travaille un peu sur ces thématiques-là de pollution des eaux, mais aussi de l'air, par les microparticules notamment industrielles. Donc à mon avis, voilà, de ce que j'ai compris, il y aura plein de maquettes, il y aura plein d'activités, plein de petites expériences. Donc si vous voulez en savoir plus justement sur comment on analyse, on évalue ça et on réussit à contrer ce problème-là, il y aura plein de choses à faire ce week-end.
Alors là, ma question s'adresse à tout le monde, hein. On est dans un monde où on parle de plus en plus d'effets, justement, de ces déchets, de la toxicité. Est-ce que c'est quelque chose, justement, qu'on commence seulement à aborder de manière frontale ou est-ce que c'était déjà la même chose il y a 10 ans, 20 ans ? Est-ce qu'on sent une aggravation ? quelle est la tendance et peut-être même les solutions à venir? Est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste?
Je pense qu'il faut surtout être optimiste. Alors la question, je pense qu'elle est traitée depuis assez longtemps par les scientifiques et par les sociétés. Maintenant, est-ce que la prise de conscience, elle s'est fait peut-être que assez récemment? Donc il y a peut-être une latence entre les actes réels de la société et des gens au quotidien par rapport au moment où ça a été pensé premièrement. Mais actuellement, je pense qu'il y a eu une prise de conscience vis-à-vis de ça. Et en fait, c'est tout le rôle de cette fête de la science-là, c'est de mettre au goût du jour ces questions-là qui sont importantes pour faire avancer les choses, et notamment en touchant les plus jeunes, puisque la fête de la science vise aussi à attraper l'attention des collégiens, lycéens. Comme c'est eux qui feront le monde de demain, c'est important d'être alerté sur ce genre de questions-là et sensibiliser.
Voilà, donc sensibiliser les jeunes, mais aussi peut-être... les rendre exigeants, plus exigeants que leurs aînés, et aussi permettre à la science d'avoir plus de moyens pour répondre à ces défis.
Ah oui, c'est sûr que... je ne veux pas dire que les moyens résoudraient toutes les questions, c'est faux, mais parce qu'il faudrait aussi les prises de conscience de ces personnes-là, mais c'est un tout, ouais, en effet.
Est-ce qu'on a suffisamment mis en valeur la responsabilité individuelle dans tous ces problèmes d'environnement, ces problèmes collectifs, et même, pourquoi pas, des usages qui sont faits dans des lieux qui sont communs, qui ne sont pas seulement le fait des individus, mais d'une gestion collective, par exemple.
J'ai l'impression, oui, que c'est quelque chose qui va en grandissant. Je vois dans notre cas, j'ai 25-26 ans, j'ai l'impression que depuis que je suis au lycée, ces questions-là, elles ne font que prendre de plus en plus de place. Donc, je ne pense pas être un cas isolé en disant ça, et c'est plutôt bon signe. Et c'est vrai qu'il faut que ça continue dans ce sens-là.
Donc, voilà. Pour avoir les réactions des étudiants qui viennent, ou des collégiens ou des lycéens qui viennent parfois à l'Institut, quand on leur fait faire des visites justement et on leur montre certaines recherches qu'on fait autour justement de la pollution microplastique, leurs questions souvent sont assez éclairées et assez riches quand même. On sent que c'est un sujet qui est très présent dans leur esprit, et que ils ont autant la conscience, on va dire, de la responsabilité individuelle que de la responsabilité collective de ce problème-là.
Mmh. Est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte qui ne finissent pas en prison?
Ça, je ne sais pas.
Oui.
Oui. Donc, est-ce qu'il y a des cas qui ont été révélés récemment et qui signalent un problème qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans et qui devient évident maintenant et qu'on veut traiter justement avec les moyens affectés à la recherche, par exemple?
Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu, alors c'est pas à Lille, il y a eu à Bordeaux, justement un autre institut de chimie des matériaux à Bordeaux, où ils ont testé la composition des gobelets en plastique, en carton justement, vendus comme étant en carton de l'Assemblée nationale.
Ah oui, il paraît qu'ils sont
et il paraît qu'en en fait il y avait une partie en plastique,
le film qui protège,
voilà, pour les rendre justement étanches. Mmh. Et donc là en l'occurrence ça a été mis en avant grâce aux appareils de ce laboratoire à Bordeaux. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a, voilà, ce lien qui existe, et ces manières un peu de mettre en avant les problématiques. Mmh.
C'est vrai que j'ai pu voir ce reportage. Bon, ça fait un peu un scoop aussi en même temps pour celui qui publie. Hein. Donc il y a une partie communication, on va dire, de gens qui vendent de la production audiovisuelle, et ils ont intérêt à montrer des choses qui touchent le public, bien sûr. Et puis il y a l'intérêt collectif, donc ce dont la science doit s'emparer avec des politiques de la recherche notamment. Mmh. Comment on peut évaluer, mais comment on peut définir l'évolution justement des politiques de la recherche au travers le temps? Est-ce qu'on est dans une période où c'est pris en considération plus que d'autres, notamment dans ces problèmes de l'environnement?
C'est un...
Alors, c'est pris en compte dans les projets de recherche. Il nous est demandé effectivement d'évaluer les retours de notre recherche et l'impact qu'il y a dans la société. C'est devenu une partie obligatoire dans les appels à projets, et on doit y répondre.
C'est ça. Et puis à noter aussi, en fait, cet enjeu même environnemental, on évoquait un peu la question environnementale, même cet enjeu-là, en tout cas l'Université de Lille et particulièrement l'Institut Chevreul, on porte des projets scientifiques qui mettent au cœur vraiment du sujet, l'enjeu des transitions, qu'elles soient écologiques, énergétiques, environnementales. Et c'est, ça fait vraiment partie des feuilles de route, en fait. Tout projet qui est construit, en fait, se construit à partir de ça. Donc c'est vraiment au cœur même de comment on fait de la recherche aujourd'hui.
Dans les sciences économiques et sociales, il y a économique, il y a social. On comprend bien que toute société induit des modes de consommation qui ont des effets pervers et qui permettent néanmoins de vivre et de survivre. Mais comment les chercheurs, justement, en économie sociale, peuvent analyser l'impact de l'homme et l'évolution de cet impact dans les problématiques que l'on a définies scientifiquement également?
Alors, moi, je ne suis pas économiste, hein, donc je ne vais pas pouvoir y répondre de manière peut-être précise. Et, mais on a quelques économistes dans notre laboratoire et effectivement, il y a de l'économie non marchande. Enfin, c'est tout ne se calcule pas, tout n'a pas une valeur marchande. Donc, le fait d'aller sur, par exemple, le littoral et d'apprécier le paysage, le cadre, le bien-être, ça va avoir une valeur pour vous. Et donc, il y a toute une méthodologie pour évaluer cette valeur-là. Voilà. Et donc, c'est pris en compte dans certains projets de recherche et c'est intégré au même titre que quelque chose qui a une valeur marchande, en fait.
Est-ce que des éoliennes, ça a un effet perturbateur sur la qualité des océans, notamment au Touquet où il ne faut pas les mettre?
Je suis absolument pas experte dans ce domaine et j'ai pas étudié le dossier, mais je sais que ça. Moi, ce que j'en vois, c'est que ça crée énormément de tensions surtout auprès des locaux, enfin au sein de la société, des habitants, parce que pour certains, il y a une perte effectivement d'aménité, en fait, hein, de qualité paysagère. Il y va avoir aussi des tensions de la part des pêcheurs. Quand vous mettez des éoliennes sur une zone de pêche, c'est assez problématique. Voilà, donc. Je sais que pour avoir travaillé avec l'OFB, il y a des endroits où on n'a pas pu faire du terrain parce que justement, il y avait ces questions-là qui se posaient et que c'était vraiment extrêmement tendu, quoi.
Il pourrait y avoir aussi une perte de valeur du patrimoine s'il y a des éoliennes à proximité.
Alors, ouais, oui, effectivement. Oui, si vous avez votre maison dans un cadre magnifique, vous êtes propriétaire d'une maison dans un cadre magnifique et vous avez des éoliennes juste en face, bah, ça peut poser problème pour certains habitants, effectivement.
C'est probablement le cas du Touquet, comme vous le citiez. Oui.
Voilà, entre autres.
Donc, on voit bien qu'il y a des problèmes de manière large qui sont identifiés, hein, et puis des solutions qui peuvent être économiques et politiques.
Oui, et puis c'est toujours la difficulté de justifier effectivement l'économique, quoi. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que le choix se fait vraiment de manière pour des raisons économiques ou pour des raisons politiques? Enfin, c'est compliqué.
Il rentre aussi la question de l'environnemental aussi là-dedans. Mmh. Il y a notamment, si je repense, je retombe sur mes pattes avec la BD Science en Bulle, il y a une doctorante qui a travaillé sur le comportement des baleines en haute mer. Et donc, elle a traqué les positions et les routes de ces baleines-là au cours de l'année vis-à-vis du trafic maritime. Mmh. Et en fait, ces recherches montrent de façon très claire que le comportement des baleines change en fonction de ce trafic maritime, et notamment des porte-conteneurs qui viennent complètement perturber la faune qui est présente dans ces endroits-là. Et donc voilà, cette doctorante retrace cette recherche-là dans cette bande dessinée. Donc en plus des effets économiques et sociaux, il y a cet aspect environnemental qui doit être aussi pris en compte avec les parcs éoliens, qu'ils soient sur terre ou offshore.
C'est vrai que d'un point de vue économique, on voit des zones qui vont se développer. Je pense à Dunkerque, où le port a intégré là, une grosse société japonaise pour le fret. Hein. Donc, ça va être inauguré bientôt. Là aussi, il y a des enjeux économiques d'échange internationaux des marchandises. Voilà, on peut imaginer aussi que la mer du Nord soit encore plus perturbée qu'avant et que, par contre, il y ait une économie qui se développe, notamment pour le port de Dunkerque. Donc, je pense que le politique a à choisir, a priori, entre l'intérêt collectif et l'intérêt particulier et la planète dans tout ça.
Voilà, c'est une question d'équilibre. Mmh. C'est vrai que certaines décisions vont profiter à certains. Et laisser d'autres de côté, c'est vraiment une question d'équilibre à trouver. Et c'est vrai que ces zones-là sont à forte tension, donc beaucoup de questions à régler. Je ne sais pas si c'est vraiment possible de satisfaire tout le monde.
Pour le règlement de ces questions par des politiques qui sont informées, est-ce que vous pouvez leur transmettre des dossiers qui leur permettraient de fonder leurs décisions ? En tant que chercheur,
C'est le but de la recherche. C'est à la fois d'avoir des informations concrètes et sûres, entre guillemets, qui sont validées par un consensus scientifique et qui permettent d'affirmer ou de contre-affirmer certaines affirmations et qui peuvent faire peser des arguments forts dans la balance, dans un sens ou dans l'autre. Le but n'est pas forcément de soutenir une cause, mais c'est plutôt de façon impartiale à affirmer certaines choses.
Alors, certaines des études de recherche sont privées, donc ça veut dire que celui qui en est destinataire peut les utiliser ou non, mais ce n'est pas publié. Et d'autres sont publiques, et je suppose qu'il existe une documentation accessible. Comment ça fonctionne, cet équilibre entre privé au service du privé, ou public au service du privé, et public au service, on va dire, du général?
C'est deux recherches qu'il faut distinguer néanmoins, puisque la recherche académique a pour but de plus en plus d'être une science ouverte et donc accessible à tous. Et donc, dans le meilleur des cas, intelligible par tous. La recherche académique qui se fait sur l'Université de Lille, la plupart de cette recherche-là, a pour but de à la fois en savoir plus sur le monde qui nous entoure et le partager.
Alors, pour partager, j'imagine quand on fait des recherches, c'est forcément très compliqué, très élaboré. Et Maxime Trénaud a une très grande expérience de la médiation, de la capacité à transmettre auprès d'un public l'essentiel d'une recherche.
C'est ça. Alors moi, mon but surtout, c'est de donner les clés aux scientifiques de pouvoir faire ce travail-là. Parce qu'en fait, eux, quand ils parlent avec leurs collègues, avec leurs pairs, ils vont avoir tendance effectivement à utiliser un langage qui peut être, enfin le leur, qui est le langage technique qu'ils utilisent pour se faire comprendre le plus précisément possible. Mais quand on parle à un public qui n'est pas du tout expert, c'est vrai que c'est pas forcément instinctif ou évident de réussir à trouver la bonne manière de parler, de trouver les bonnes images, de simplifier suffisamment aussi son propos, d'aller à l'essentiel, sans forcément trahir, on va dire, le contenu. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec eux en fonction aussi du format qu'ils veulent exercer. Alors, on a des scientifiques qui vont préférer faire des conférences. Et là, on va plutôt travailler sur quelles sont les idées vraiment essentielles qu'on veut faire diffuser et comment on peut en parler, en fait, quelles images on peut trouver. Et d'autres vont préférer des formats un peu plus originaux qui peuvent passer par du jeu, qui peuvent passer par des visites auprès de scolaires, qui peuvent passer auprès d'ateliers. Et là, on va plutôt réfléchir à comment on peut mettre en scène de manière un peu fun, un peu rigolote, un principe physique, un principe chimique, et derrière, quel discours on construit à partir de cet exemple un peu concret, pour que le message, c'est toujours cette idée de message, pour que le message passe derrière. Mais oui, c'est un travail de chaque instant qui n'est pas instinctif. Et faut pas. C'est normal qu'un scientifique de base n'a pas forcément les compétences pour réussir à simplifier. Il y en a qui le font très très bien d'eux-mêmes, qui sont incroyables. Mais il y a aussi, c'est un exercice à part entière.
Voilà, donc cette fête de la science, c'est une occasion d'amener auprès d'un public large, notamment des jeunes, mais pas que, des questions, des solutions, des idées. Et pour que, là en l'occurrence, l'océan se porte mieux et qu'il nous porte mieux et que nous supporte mieux peut-être aussi. Est-ce qu'on pourrait donner quelques éléments de programmation de ce festival, de cette fête?
Oui, tout à fait. Donc, on a des choses qui se passent dans les murs de l'université et en dehors des murs de l'université. Par exemple, pas loin d'ici, à la direction culture, on a une exposition Sargasses, la grande invasion, qui est en ce moment même visitable par tout le monde. Ce week-end, on a donc le parcours scientifique des sciences infuses, comme le disait Maxime tout à l'heure, à l'Institut Pasteur au 1894 et la semaine d'après à la Halle au Sucre. On a des conférences à l'Iliade, on a un spectacle à la station marine de Wimereux, donc on va, ça s'étend aussi jusque là-bas. Et après, on a aussi des choses qui se font spécialement pour les scolaires avec l'INSPE de Lille et de Douai. Donc c'est vraiment une programmation qui touche différents publics sous différentes formes et qui est très bien vulgarisée. Comme disait Maxime tout à l'heure, on a accompagné les chercheuses et les chercheurs dans leurs travaux d'atelier, de conférences, pour que le discours soit accessible à tous.
Donc il existe le site fêtesdelascience.fr et puis dans ce site, on peut trouver les éléments qui correspondent aux Hauts-de-France.
C'est ça. Tout à fait, vous cherchez selon la ville où vous êtes, si vous allez vous balader, vous tapez le nom de la ville et vous avez toutes les propositions qui s'offrent à vous.
Ça représente combien de villes à peu près? Beaucoup?
Il y en a vraiment partout dans les Hauts-de-France, ça peut aller à Dunkerque, Calais, Boulogne, sur l'île, même dans les zones on dit blanches où il y a moins de médiations ou de manifestations qui sont proposées en général, où il y a des activités... sont proposés.
Avec, j'imagine, un lien avec les lycées, les professeurs?
Alors, ça dépend de chaque porteur d'événement. Nous, c'est vrai que, ben, là, je parle pour les sciences infuses, on fait 2 jours de scolaire qui démarrent demain et vendredi, puis après 2 jours vraiment pour le grand public, tout le monde. Et après, il y a des porteurs qui ont préféré s'orienter du côté scolaire et d'autres qui sont plus accessibles avec le grand public. Donc, c'est vraiment propre à chacun.
Voilà. Et donc, dans cette émission, la semaine prochaine, eh bien, nous parlerons de l'action culturelle au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq, qui, bien sûr, entrera dans ce village des sciences avec ses compétences. Et ce sera Samuel Dereder, qui est responsable de ce service action culturelle, que j'accueillerai dans cette émission. Il y aura aussi l'INRIA, qu'on présentera un peu plus largement que d'habitude. Et puisque, voilà, là, on peut dire que les écoles et les universités de la région se sont bien mobilisées pour accueillir le public dans les meilleures conditions. Un petit, peut-être, petite conclusion donc de notre représentant officiel, on va dire.
Eh bien, petite conclusion, je vous invite vraiment tous à vous intéresser à cette fête de la science. Il y aura de merveilleuses choses à découvrir pour en savoir plus sur l'eau, sur les océans en général. Donc, j'espère, en espérant que cette petite demi-heure vous a conquis et qu'on vous trouvera nombreux sur les stands des Hauts-de-France.
Voilà, merci Sylvain Laforêt, merci Océane Devin, merci Christelle Auduit et merci Maxime Traîneau, à qui nous souhaitons bon vent.
Oui, tout à fait. Ouais. Je pars vers d'autres aventures et je vais avoir un remplaçant bientôt pour la matériau qui reviendra assez rapidement.